Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 23 mai 2022. Avec vous Eric Manirakidza, voici d'abord le sommaire. En Centrafrique, au moins 11 militaires ont été tués ce week-end dans deux attaques séparées. En Tunisie, la centrale syndicale rejette le dialogue proposé par le président Saïd. À Tokyo, Joe Biden hausse le ton à l'égard de Pékin et promet de défendre militairement Taïwan en cas d'attaque chinoise. En Ukraine, le militaire russe jugé pour crime de guerre est condamné à la prison à vie. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En République centrafricaine, au moins 11 militaires ont été tués samedi et dimanche dans deux attaques dans le centre et le sud-est du pays. Ces attaques sont attribuées aux rebelles de la CPC, la Coalition des Patriotes pour le Changement, à Bangui pour VOA Afrique. Notre correspondant Freeman Sipila.
La première attaque a eu lieu samedi dans la localité minière de Nzako, à plus de 600 km de Bangui, dans la préfecture du Mbomou, à l'est. La base des forces armées centrafricaines a été attaquée très tôt le matin. Après plus de 4 heures de combat, 8 militaires, dont le commandant de la zone, sont tombés et la ville a été reprise par les rebelles. Des sources locales contactées par VOA Afrique indiquent que jusqu'à ce lundi, les rebelles sillonnent encore les rues de la ville et occupent la base de l'armée nationale. Hier dimanche, une autre attaque a visé une position des forces nationales dans le village d'Igui, à 40 km de Bombari, dans la préfecture de l'Awaka, dans le centre du pays. Cette dernière attaque a été repoussée par les forces de sécurité, mais deux militaires et un gendarme ont été tués. Ces nouvelles attaques inquiètent les populations et relancent le débat sur la neutralisation des groupes armés dont se vantent les autorités. Entre avril et mai, plus d'une vingtaine d'éléments des forces armées centrafricaines ont péri dans des attaques surprises lancées par les rebelles. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Le Rwanda a affirmé lundi que plusieurs civils ont été blessés par des tirs de roquettes de soldats congolais à la frontière avec la RDC. Les roquettes ont atterri dans le district de Musanze, frontalier de la RDC, blessant plusieurs civils et endommageant des habitations, a indiqué l'armée rwandaise dans un communiqué. Kigali indique avoir demandé au mécanisme de vérification conjoint élargi de diligenter une enquête immédiate. Cet organisme régional qui surveille et mène des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région volatile des Grands Lacs. Au Nigeria, la police a découvert la tête coupée d'un législateur de l'État qui avait disparu la semaine dernière dans l'État d'Anambra, dans le sud-est du pays, où le gouvernement accuse les séparatistes d'avoir perpétré une série de meurtres et d'enlèvements. Claire Morégibourg.
Okechukwu Okoye, député de l'Assemblée de l'État d'Anambra, et son assistant ont disparu le 15 mai. Sa tête a été retrouvée samedi soir dans un parc de Newi Sud, a déclaré un porte-parole de la police, qui a ajouté qu'aucun suspect n'a encore été arrêté. Le gouverneur de l'État d'Anambra a offert une récompense de 10 millions de naira pour des informations sur cet assassinat. Début mai, des hommes armés ont tué et décapité deux soldats dans l'État voisin d'Imo. Le gouvernement a accusé l'IPOB, le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes de Biafra, qui a nié l'accusation. Le sud-est du Nigeria connaît une hausse des violences indépendantistes. Selon des médias locaux, plus de 130 membres des forces de sécurité ont été tués depuis l'an dernier.
9 personnes travaillant dans la région éthiopienne de l'Amara ont été arrêtées par les autorités locales, ont affirmé lundi leurs employeurs Nisir International Broadcasting Corporation et Achara. Leurs équipements ont été confisqués jeudi et vendredi dans la ville de Bahir Dar par la police locale et des forces de sécurité. En Tunisie, la principale centrale syndicale UGTT a refusé de prendre part au dialogue proposé par le président Kais Saied pour fonder une nouvelle république. Nathalie Barge.
À l'issue d'une réunion sous la présidence de son secrétaire général Noureddine Taboubi, l'Union générale tunisienne du travail a annoncé qu'elle boycotterait ce dialogue. Le syndicat reproche au format proposé par le président Kais Saied de ne pas avoir fait l'objet de consultations préalables et de ne pas répondre aux attentes des forces nationales pour mettre en place un processus patriotique qui permettrait de sortir de la crise. Monsieur Saied a nommé vendredi un juriste à la tête d'une commission chargée d'élaborer une constitution pour une nouvelle république à travers un dialogue national dont les partis politiques sont exclus. Pour rappel, l'UGTT, l'UTICA, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats ont été lauréats en 2015 du prix Nobel de la paix pour leur contribution à la transition démocratique en Tunisie, berceau du printemps arabe.
La célèbre actrice algérienne Shafia Boudra, figure du cinéma et théâtre en Algérie, qui avait notamment joué dans le thriller politique Hors la loi, présenté en compétition au Festival de Cannes en 2010, est décédée dimanche à Alger à l'âge de 92 ans. On rapportait lundi les médias d'État. Shafia Boudra, née à Constantine en 1930, est veuve d'un combattant du FLN mort durant la guerre d'Algérie en 1960, était connue pour ses rôles dans des longs métrages cultes tels que El Harik et l'évasion de Hassan Terro. L'Ocean Viking, le navire ambulance affrété par l'ONG SOS Méditerranée, a secouru lundi 139 migrants au large de la Libye puis de Malte, portant 296 le nombre de rescapés à son bord, a annoncé l'association. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde. L'agence onusienne pour les migrations y estime le nombre de morts et de disparus à 1553 en 2021.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis défendront militairement Taïwan en cas d'attaque de la Chine, c'est ce qu'a déclaré Joe Biden ce lundi à Tokyo. Pékin a immédiatement réagi, appelant Washington à ne pas sous-estimer la ferme détermination de la Chine à protéger sa souveraineté. Le point avec Abdelhaman Diaye.
Le président américain estime que la Chine flirte avec le danger, mettant en garde contre une invasion de Taïwan. Pour Joe Biden, cela est conforme à l'engagement que les États-Unis ont pris envers l'île revendiquée par la Chine. Nous étions d'accord avec la politique d'une seule Chine, nous l'avons signée, mais l'idée que Taïwan puisse être pris par la force n'est tout simplement pas appropriée, a dit le président américain. Cela va disloquer l'ensemble de la région et constituer une action similaire à ce qui s'est passé en Ukraine, a ajouté Joe Biden. Il a fait ses déclarations lors d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre japonais Fumio Kishida après des entretiens à Tokyo. M. Kishida a de son côté déclaré que le Japon et les États-Unis vont surveiller les récentes activités de la marine chinoise ainsi que les mouvements liés aux exercices conjoints de la Chine et de la Russie. La Chine a réitéré qu'elle entendait réunifier le territoire insulaire à, je cite, « la mère patrie ». Elle n'a pas renoncé à utiliser la force en cas de déclaration formelle d'indépendance par les autorités taïwanaises.
Les États-Unis et le Japon ont dit lundi qu'ils comptaient envoyer un premier astronaute japonais sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA, l'agence spatiale américaine, mais sans fixer de calendrier. Cette annonce symbolise le renforcement de la coopération des deux pays dans le domaine spatial. Un tribunal ukrainien a condamné aujourd'hui un soldat russe à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour avoir tué un civil non armé. C'est le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'offensive lancée par la Russie le 24 février. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le Kremlin n'a pas réagi dans l'immédiat à ce verdict. Il a déjà déclaré ne disposer d'aucune information sur ce procès et ne pouvoir fournir qu'une assistance limitée du fait de l'absence de mission diplomatique russe en Ukraine. Le prévenu Vadim Chichimarin, âgé de 21 ans, commandant d'un char russe capturé par l'armée ukrainienne, a plaidé coupable du meurtre d'un homme de 62 ans à Tchupativka, dans le nord-ouest, le 28 février dernier. Parallèlement à ce procès, les séparatistes pro-russes entendent juger les prisonniers d'Azovstal, rapporte ce lundi l'agence russe Interfax. Sur la ligne de front, l'Ukraine a déclaré lundi avoir repoussé le récent assaut contre Severodonetsk, une ville de l'Est qui est devenue la principale cible de l'offensive russe depuis la prise de Mariupol la semaine dernière. La ville située sur les rives d'un fleuve dans l'est de l'Ukraine a été la principale cible des Russes ces derniers jours. Apparemment, Moscou tente d'encercler les forces ukrainiennes dans l'est et s'emparer entièrement des provinces de Louhansk et de Donetsk.
Jean-Roger Dion, 20 pays se sont engagés à fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine pour faire face aux forces russes lors d'une réunion des alliés lundi, a annoncé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Rosine Munezero.
Les autorités des deux Soudans se sont rencontrées dimanche à Khartoum pour négocier un nouveau marché dans le secteur pétrolier, rapporte l'agence Ecofin. Selon le ministre soudanais de l'énergie et du pétrole, les discussions entre Khartoum et Djouba ont essentiellement fait le point sur la mise en œuvre d'un accord de partenariat signé en 2012, puis prolongé en 2019. Un bilan qui vise à explorer les pistes permettant d'envisager le cadre juridique d'un nouvel accord projeté pour 3 années de plus. Face à une économie mondiale confrontée à une confluence potentielle de calamités, le FMI va défendre à l'occasion du Forum économique de Davos en Suisse la mondialisation et exhorter les pays à ne pas céder à la tentation du protectionnisme. Les organisations non gouvernementales appellent à la taxation des grandes fortunes. Selon Oxfam, un impôt annuel de 2% sur les millionnaires et de 5% sur les milliardaires générerait 2 milliards et 520 millions de dollars par an. L'ONG estime qu'une telle somme pourrait permettre de sortir 2,3 milliards de personnes de l'extrême pauvreté.
C'est en transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le football. Le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali a publié sa première liste.
Eric Sékou Chell a convoqué 25 joueurs pour les matchs des deux premières journées, comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les détails avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Eric Sékou Chell prépare déjà les deux premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, respectivement contre le Congo le 4 juin et le Soudan du Sud le 9 juin.
De ce que je vois depuis de nombreuses années en équipe nationale, il y a un travail qui a été effectué. Et ce travail, en grande partie, a été bon travail. Moi, je vais m'appuyer et ajouter ma vision.
Néanmoins, le nouveau sélectionneur du Mali va un peu plus loin.
C'est un milieu de terrain qui va avoir beaucoup de responsabilités. D'une, dans la récupération. Deux, dans l'intensité. Trois, donner les ballons pour les attaquants. Quatre, dans la finition. 5 dans le rythme du match et 6 dans le plan du jeu.
Le nouveau sélectionneur du Mali dit être ouvert à toutes les critiques constructives.
Je serai à l'écoute de vos exigences et de vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Je l'espère qu'elles soient quand même très positives grâce aux résultats que je vais avoir.
Selon Eric Sékou Chell, s'il est devenu sélectionneur du Mali, c'est qu'il y a presque 10 ans, il a commencé ce travail pour le devenir. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Football toujours, l'attaquant vedette Kylian Mbappé dit souscrire au projet PSG Paris Saint-Germain, n'est-ce pas?
Le sportif avant l'argent, Kylian Mbappé a expliqué lundi avoir prolongé jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain pour s'inscrire dans un projet qui a changé, plus que pour des raisons financières, tout en promettant de ne pas abuser de son nouveau statut. Kylian Mbappé.
Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici.
Kylian Mbappé, attaquant du PSG.
Et on connaît les demi-finalistes de la Basketball Africa League.
Les play-offs de cette deuxième édition ont débuté samedi à la Kigali Arena au Rwanda. En quart de finale, les Tunisiens de l'US Monastir ont dominé les Sud-Africains de Cape Town Tigers, 106-67. En demi, ils feront face aux Amalek d'Égypte, qui a défait les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club, 66-49. Ce sera donc un remake de la finale de l'année dernière. Dans les deux premiers quarts de finale disputés samedi, les Angolais de Petro de Luanda ont battu les Marocains de l'AS Salé 102-89. En demi-finale, ils affronteront FAP du Cameroun, qui a pris le dessus sur Rwanda Energy Group 66-63. Les demi-finales se disputeront ce mercredi 25 mai.
C'était les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Violence au Sénégal, les cas de meurtre et d'agression ont considérablement augmenté ces dernières semaines, poussant les populations à monter au créneau pour demander plus de sécurité. Le meurtre barbare d'une jeune dame dans sa boutique de transfert d'argent a été le crime de trop. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Des agressions et vols filmés par des caméras de sécurité et largement partagés sur les réseaux sociaux ont déjà fait réagir les populations. Ce week-end, la médiatisation de trois crimes a fini de jeter un sérieux sentiment d'insécurité sur les Sénégalais, comme l'indique Anne Mindy.
Franchement, j'ai vraiment peur. Ça m'a fait le dos. Tout le temps, parce que tout le temps...
Je me dis qu'on peut m'agresser à tout moment, parce que nul n'est en sécurité maintenant. Quand j'entre dans les transports en commun, je dévisage les gens. Je me pose énormément de questions, parce que maintenant, c'est difficile de cerner le profil des agresseurs. Maintenant, c'est des gens qui ne sont pas forcément issus des milieux interlopes qui font les agressions. Et les actes de barbarie. Du coup, on se méfie de tout le monde parce que rien n'est sûr.
Face à cette brusque montée des agressions, notamment mortelles, les populations se font de plus en plus justice elles-mêmes. Certaines d'entre elles militent depuis quelque temps pour le retour de la peine de mort. Pour Mohamed Bey, c'est la seule méthode pour dissuader les malfrats.
À un moment donné, ça devient une solution inévitable parce que nous sommes dans un pays musulman et si on appliquait la charia, tous ces assassins seraient exécutés. Mais cette application, qui est très dissuasive, n'existe plus dans le code pénal. Et surtout, les délinquants sont très souvent graciés et je pense que cela participe à faire augmenter la criminalité.
Pour les autorités, les populations peuvent intervenir pour maîtriser un malfrat sans pour autant se faire justice soi-même, comme le conseille le contrôleur général de police Modou Diagne, directeur adjoint de la police nationale.
C'est normal, à chaque fois qu'on assiste à des cas de violence, de vol avec violence, d'agression, les populations qui sont là sont en droit d'interpeller les malfaiteurs et de les livrer à la police. Mais juste éviter de se faire justice elles-mêmes, et ça peut conduire toujours à des dérapages qui souvent peuvent être quand même irréparables.
Face à la montée de la criminalité et aux plaintes des populations, les forces de défense et de sécurité ont lancé une vaste opération de sécurisation ce week-end avec des patrouilles mixtes police et gendarmerie. Les autorités ont également annoncé la mise en place de dispositifs plus inclusifs afin de renforcer le sentiment de sécurité chez les populations. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Au Togo, les cantonculteurs font le bilan de la saison 2021-2022. Ils se sont retrouvés avec une production de 50 000 tonnes seulement, une baisse de 25% par rapport à la précédente saison. Les prévisions visaient une production de 135 000 tonnes, une vraie désillusion. Reportage de notre correspondant au Togo, Kossi Wosu.
Dans la grande salle du palais des congrès de la ville de Kara, située à 450 km au nord de la capitale Lomé, où les producteurs du coton tiennent leur réunion annuelle, l'ambiance n'était pas à la jubilation. Pour la deuxième année consécutive, la production de l'or blanc a diminué. Lamoï Pakalakina, directeur agronomique de la nouvelle société cotonnière du Togo, donne les raisons de cette mauvaise performance.
Le déroulement de la campagne s'est heurté à des difficultés, notamment la montée fulgurante du soja avec des prix défiant toute concurrence, les difficultés pluviométriques à la clé. Tout cela a perturbé énormément les producteurs qui ne se sont pas retrouvés. Ce sont 9 000 producteurs qui se sont lancés dans la production de coton. Sur un ensemble de 153 000 producteurs, vous voyez qu'il y a eu désertion.
Une désertion qui fait baisser la surface cultivée à environ 73 000 hectares, alors que la prévision initiale était de semer le coton sur 193 000 hectares. La mécanisation de la filière qui pourrait aider à augmenter la production est aussi à la traîne. Eto Kofi est le coordonnateur national de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton qui dispose d'une cinquantaine de tracteurs.
Dans
l'utilisation de ces engins, on s'est confronté à des sérieux problèmes, d'abord de la disponibilité des pièces de rechange et de l'entretien de ces tracteurs-là, parce qu'on n'arrive pas à voir des personnes qualifiées, ni pour conduire, ni pour nous aider à réparer à un temps record nos tracteurs. Ce qui fait qu'on commence par se lasser dans ce processus-là, alors que nous savons que de toute manière, il y aura une place de mécanisation, non seulement dans le coton, mais dans l'agriculture générale.
Au niveau de l'Institut de recherche agricole du Togo, des semences améliorées des différentes variétés sont proposées pour un meilleur rendement de la culture du coton. Bassarou Ayeva est le spécialiste coton à l'ITRA.
Et au niveau de l'agronomie, avec les faiblesses de rendement que nous observons ces derniers mois, nous avons mis un paquet de technologies, que ce soit au niveau d'indécémie liée aux densités, également des pistes de recherche entre l'interaction densité de semis et puis régulateur de croissance. Et on a vu des augmentations de rendement de 20 à 25%.
Ces efforts de recherche vont peut-être booster la production et atteindre les objectifs affichés de 146 000 tonnes pour la nouvelle saison cotonnière 2022-2023 qui s'annonce. Kossi Wousou, Kara pour VOA Afrique.
Au Gabon, le phénomène des véhicules non conformes au transport en commun prend de l'ampleur. Dans le jargon populaire, ils sont appelés clandos, issus du mot clandestin. Faute d'un service de transport public digne de nom, ces sortes de cercueils ambulants sont devenus la norme de transport dans la capitale gabonaise. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze.
Dans l'atmosphère brillante d'un point d'embarquement du nord-ouest de Libreville, Thomas Bidon vient de se faire une place à l'arrière du clando devant le conduire sur une route boueuse de son quartier.
Je n'arrive pas à comprendre aussi comment nous sommes dans la ville. Le véhicule, on est obligé, mon frère. On fait comme si il n'y a pas de route, c'est les 4x4 qui rentrent là-bas. Les taxis n'arrivent pas parce qu'on n'a pas de route et puis on est obligé de se serrer dans les véhicules.
Ces véhicules, pour la plupart, sont vieux et délabrés. Ils n'ont pas de portière ni de phare. Le pare-choc est souvent attaché avec une corde ou un élastique. C'est comme une sorte de cercueil roulant à ciel ouvert.
J'ai déjà emprunté un clando ou même on voit la route lorsque ça démarre.
Et les moteurs sont fatigués, il y a la fumée qui sort, les voitures sont pas en règle, c'est compliqué. Tu t'assois, les sièges sont mouillés, c'est déchiré, vraiment les clandos sont pas à l'aise.
Le nom de clando donné à ces véhicules n'est pas fortuit. En plus d'être la propriété des chauffeurs, au permis douteux, Clément Dinga conduit un clando.
Il faut toujours, à chaque fois, chaque deux ou trois jours, tu amades la voiture, tu arranges, tu changes la voiture, la plaquette, tout, parfois ça, la roue saute même.
Jugé trop polluant et dangereux, le gouvernement avait lancé une étreinte contre le parc automobile défectueux de la ville. Ce projet marronnier a financièrement ruiné Michel Zema.
Les véhicules aujourd'hui, je les revendique parce que c'est des véhicules qui m'ont apporté des problèmes. Un, on a interdit à ce que les véhicules puissent rentrer. Je pense qu'à l'époque de l'ancien président, il y avait des véhicules et les véhicules étaient moins chers. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec 1 500 000, à l'époque de l'ancien président, tu pouvais te trouver un véhicule occasion Belgique. Mais aujourd'hui, là, même pour trouver un véhicule occasion Belgique, il faut avoir au moins 5 millions. Et avoir ce mieux pour nous là, c'est compliqué, c'est très difficile.
Une fois crevé, le véhicule après un dernier crachotement finit par rendre l'âme. Alors le clando, comme un ancien combattant de la route, termine son parcours dans les garages à ciel ouvert, les nombreux cimetières de voitures de Libreville. Et là encore, c'est un casse-tête pour les autorités municipales. Karim Zengi, le maire adjoint de Libreville.
On peut exercer une activité, mais pourvu que l'on soit conforme aux règles en vigueur. Pourvu que l'on respecte les conditions d'hygiène. Si ces conditions, qui sont des principes de base, ne sont pas respectées, le maire de la commune de Libreville ne se fera pas prier pour ramener les uns et les autres à l'ordre.
Si les responsables de la mairie affichent leur détermination à débarrasser Libreville des clandos, mais la population est sceptique, car auparavant, des opérations similaires ont déjà montré leurs limites. Ismaël Obianzé, Libreville pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République démocratique du Congo, RDC, les agriculteurs éprouvent d'énormes difficultés à exercer leur travail. Ils doivent faire face à une hausse du prix de l'engrais, celle du transport, ajoutée à la détérioration des routes qui ne leur permet pas d'écouler aisément leurs produits sur les différents marchés de la capitale. Le reportage de notre correspondante à Kinshasa, Élisée Odia.
Henriette Nzouzi, la soixantaine, est une femme maraîchère. Ce travail, elle exerce sur le site Vundamaninga à Mangafula, l'une des communes urbano-rurales de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sur un espace de 3 hectares, Nzouzi et son mari cultivent les poivrons, les feuilles de manioc depuis plusieurs années. Cultiver la terre, une question de survie pour cette famille. Ça permet de nourrir la famille et satisfaire quelques besoins comme payer l'école pour les enfants.
Nous gagnons beaucoup en travaillant dans les champs. Par exemple, nous cultivons le manioc qui nous sert de nourriture, surtout pour les enfants. Nous pouvons également transformer ces maniocs en chikwangue que nous vendons pour ensuite payer la scolarité de nos enfants.
Dans la famille Kalunga, le travail de la terre se transmet de père ou de mère en fils. Pichu, actuellement agronome, est l'un de 9 enfants du couple. Il a été initié à ce travail dès l'âge de 15 ans. Mais qu'on soit jeune ou vieux, les agriculteurs de ce coin de Kinshasa, comme tous les autres agriculteurs, doivent faire face à plusieurs difficultés.
D'abord, route à ma B. D. Vous avez un mouquier, mais transport au foot à la moto.
Premièrement, la route est mauvaise. Deuxièmement, le transport, surtout par moto, est coûteux. Tu peux dépenser jusqu'à 8 000 francs congolais juste pour le transport d'un sac de concombre de là où nous sommes jusqu'au centre-ville. Autre problème, ce sont les engrais qui sont devenus coûteux.
Le mari et père de la famille Deko Kalunga ne sait plus où donner de la tête.
Nous connaissons un problème avec nos ventes parce que nous dépendions de l'extérieur. Mais avec le Covid, c'est devenu très difficile. Je suis également très inquiet sur l'état de pont qui s'est complètement détérioré. Ça rend difficile le transport de nos produits.
C'est un combat quotidien pour joindre le deux bouts du mois. Malgré tout, Pichu, Nzouzi et Kalunga ne se découragent pas. Ou à la main, ils ont déjà commencé à cultiver les amarantes, concombres, aubergines et d'autres cultures adaptées à la saison sèche qui se pointe à l'horizon. Élisée Odia, Kinshasa, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la première visite présidentielle de Joe Biden en Asie. L'influence grandissante de la Chine reste une priorité pour Washington. Joe Biden a tenté de rallier ses alliés autour des enjeux géopolitiques et économiques que constitue l'expansion de la Chine. Le président parle d'une compétition mondiale entre les démocraties et les autocraties, mais la volonté de contrer l'influence de la Chine sur les plans militaires, économiques et technologiques dans la région est évidente. Quels enjeux pour la visite de Joe Biden en Asie? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Manila Gahima et Georges Léonard Sagno. Merci également à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, Eric Mandakiza, qui va au monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24. Vous pouvez nous suivre sur votre site internet voaafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.